Un livre des livres, le podcast qui va vous faire aimer la littérature sous toutes ses formes. Lectrice, lecteur, autrice, auteur, éditrice, éditeur et amis libraires, soyez les bienvenus dans ce nouvel épisode du podcast Un livre des livres, un livre des livres, le seul podcast consacré à toutes les littératures ayant un jeu de mots foireux qui ne passe jamais à l'audio mais plutôt à l'écrit. Dans ce nouvel épisode, je vous propose de découvrir une maison d'édition chère à mon cœur, les éditions Hubert. Si je devais résumer en un seul mot cette maison d'édition, cela serait...
Insubordination ?
La transgression.
Vous aviez dit que vous le feriez plus, ça.
Oui, pardon Patrice, je ferai plus d'imitations pourries. En effet, la transgression est au cœur du catalogue proposé par cette jeune maison d'édition, un catalogue éclectique, varié, riche, parfois sombre, parfois dégueu, parfois what the fuck, mais qui a toujours à cœur de proposer quelque chose qui va mettre une bonne baffe au lecteur, que ce soit en termes de scénario ou en termes de graphisme. Je vous propose d'écouter d'abord Julien, le fondateur de la maison Hubert Édition et du label Mention, et on se retrouve juste après pour la chronique quelques titres proposés par cette maison d'édition. Vous pourrez l'entendre lors de l'entretien, j'étais accompagné de mon ami Alexandre avec qui j'ai la chance de co-animer une émission de radio Le Geek C'est Chic sur Radio D4B dont les émissions sont stockées sur internet auprès de cette plateforme et d'une autre pour les anciennes saisons.
Autant promo ! Autant promo !
Toujours à Angoulême, où avec Alexandre, nous faisons notre petit périple annuel, pour ne pas dire notre pèlerinage.
Si, pèlerinage.
Pèlerinage quand même, allez, soyons hashtag laïcité. Donc, ouais. Et nous sommes tombés sur Julien. Bonjour.
Bonjour.
Alors, peux-tu nous parler de ta maison d'édition, s'il te plaît ?
Eh bien, je suis Julien Hubert, donc je suis le fondateur de Hubert Édition, une maison que j'ai fondée avec mon ami Baptiste Neveu, et donc nous publions des comics divers et variés, qui ont tous comme point commun d'être assez transgressifs. Voilà, nous allons essayer de faire ça pendant très longtemps.
Alors, depuis combien de temps et pourrais-tu nous faire l'historique ?
De la maison d'édition ?
Ouais.
Ça fait maintenant 7 ans que nous avons sorti notre premier livre, qui était à l'époque Rocky de Martin Kellerman. On a eu une production assez mesurée durant les 3-4 premières années où on a appris le métier en fait, on a appris à faire des livres et ça fait 3-4 ans qu'on a un petit peu accéléré. On aime travailler avec des auteurs dans la durée, donc vous pouvez, en regardant notre catalogue, voir que certains auteurs représentent vraiment les pierres angulaires de notre catalogue. Vous avez par exemple Johnny Ryan, maintenant Shintaro Kago, Tony Millionaire. Voilà, on essaie de se concentrer autour d'auteurs réguliers, puis de temps en temps d'en intégrer d'autres. Voilà.
Et comment faites-vous pour recruter ces auteurs qui ne sont pas forcément des auteurs que l'on peut trouver sur des boîtes d'édition plus grosses ?
C'est presque plus une démarche de lecteur. On fait notre maison d'édition, c'est un peu notre bibliothèque idéale. C'est, comment on les recrute ? C'est une bonne question. La démarche a pas mal évolué en fait avec les années. Au début, c'est un petit peu plus difficile, personne ne vous connaît, donc on passe beaucoup par des agents, on épluche les catalogues que les agents nous envoient, on va sur les sites de Fantagraphics, Vernon Quarterly, tous ces grands éditeurs étrangers, puisqu'on est surtout sur de la traduction. Et maintenant, avec les années, on travaille avec des gens qu'on connaît principalement, on a un réseau qui s'est un petit peu agrandi, donc on peut se permettre de contacter directement les auteurs et de travailler directement avec eux. Donc voilà, je dirais que c'est un mélange de réseau qui s'est construit petit à petit et aussi d'achat de licences qui est donc une manière un petit peu plus classique de travailler. Voilà. Mais la démarche tend à évoluer avec les années et à se fluidifier. Voilà.
ont des licences pas trop difficiles à acquérir.
Alors quand je dis licence, c'est plus de l'achat de droits, parce que nous on ne travaille pas avec des licences comme je sais pas, par exemple Transformers, enfin vous voyez ce genre de truc. Non, c'est pas très compliqué à partir du moment où les gens commencent à vous connaître. Voilà, s'ils savent que vous êtes réglo, que vous payez rubis sur l'ongle, que les livres vont être jolis, globalement ça va.
Vous évoquiez en début le côté transgressif, mm-hmm. qui est un peu dans l'ADN de la maison d'édition. Pourquoi ce choix de la transgression ?
Parce qu'en fait, la maison d'édition, c'est juste une extension de notre propre sensibilité. En fait, je pense que c'est, en quelque sorte, c'est un peu notre incarnation à nous, même si elle se fait à travers d'autres artistes. Et nous, en tant que lecteurs, en tant qu'humains, on aime la transgression, encore plus à cette époque où ça devient de plus en plus difficile de l'être. Pourquoi ce choix ? Parce que c'est ce qui nous représente le plus, en fait. Est-ce que c'est vraiment un choix ? En fait, je pense pas. Je pense qu'on est juste incapable de publier vraiment autre chose. On s'est posé la question des fois de publier des choses. Alors, je vais pas dire accessible parce qu'il y a un côté, il y aura un côté pédant à dire ça, mais des choses des fois un petit peu plus douces, un petit peu plus consensuelles. Je sais pas, j'arrive pas forcément à trouver les mots. Mais en fait, on serait incapable de vraiment les défendre. Donc, en fait, à chaque fois, on retourne à ce qui nous plaît, ce qui nous fait un peu des papillons dans le ventre. Voilà. Mais après, on s'interdit pas de changer. On peut pas prétendre être la même personne 10 ou 15 ans après avoir commencé. Donc voilà, ça tend à évoluer avec notre propre évolution personnelle.
Vous évoquiez tout à l'heure Shintaro Kago. Mm-hmm. Comment s'est fait la rencontre avec le travail de cet artiste ?
Alors moi, bizarrement, j'ai avant tout découvert sa partie illustration. Que je publie sous mon autre label The Mansion Press. Il s'avère que je suis aussi devenu très ami avec son éditeur italien qui s'appelle donc Michele Nitri et qui est l'éditeur de chez Holopress. Et Michele avait les droits pour La Princesse du Château sans fin, donc il avait les droits pour Le Monde, et il m'a proposé un jour de publier son travail en français. Donc c'est avant tout une histoire d'amitié avec un autre éditeur qui s'est après concrétisé avec un achat de droits. Après, on connaissait quand même son travail, on connaissait quand même son travail de loin, mais en creusant un peu plus, on s'est rendu compte que ça correspondait parfaitement à notre vision, que ça correspondait particulièrement au reste de notre catalogue, totalement transgressif, toujours dans l'expérimentation, par le biais d'une rencontre éditoriale et humaine qu'on a pu commencer à publier ces bandes dessinées.
Est-ce que vous avez déjà eu un retour de la part de l'artiste, de cet artiste?
Oui, en fait, je travaille moi directement avec l'artiste pour les livres d'illustration. Donc oui, on est en contact régulier. Alors après, il y a quand même une barrière de la langue qui est un petit peu difficile. Il ne parle pas très bien anglais, donc bon, on a des retours, mais qui sont assez lapidaires. On essaie d'aller à l'efficacité. Mais voilà, disons qu'on est quand même en contact et qu'on travaille régulièrement main dans la main avec lui pour nos projets.
Et à l'avenir, est-ce qu'il y aurait d'autres mangaka avec un style transgressif ou particulier qui nous intéresserait ?
Oui, on est sur d'autres mangaka, d'ouvrages qu'on a déjà signés. Néanmoins, tout est plus lent avec le Japon, puisque là, on est obligé de travailler avec des agents, puisque c'est assez difficile de contacter par nous-mêmes une maison d'édition japonaise. Généralement, ils ont pas envie d'entendre parler de nous directement, ils préfèrent travailler avec des agents. Et là, on est sur une force d'inertie qui est assez... qui est assez grande, donc on envisage de travailler avec d'autres mangaka, c'est prévu, certaines choses sont déjà signées, mais voilà, il faut un peu de temps pour que ça avance. Mais effectivement, on va pas se limiter à Shintaro Kago, et le point commun entre tout ça, c'est que ça sera, voilà, comme d'habitude, un petit peu foufou, un petit peu transgressif, voilà. Mais après, soyons honnêtes, c'est aussi dur de trouver aussi transgressif et aussi fou que Shintaro Kago, donc, qui reste un des auteurs les plus excentriques au possible.
Oui, c'est sûr. C'est difficile de faire mieux, en effet. Et cette année, vous êtes venu avec les auteurs,
oui,
de votre catalogue. Est-ce que vous pouvez nous les présenter?
Alors, on est venu avec les auteurs de nos deux labels. On est venu avec Johnny Ryan, qui est un auteur qu'on publie depuis des années. C'est un de nos premiers auteurs. C'est un peu le maître de la... justement de la transgression aux États-Unis. Lui, le but de sa vie, c'est de salir l'Amérique puritaine. Donc bah voilà, c'est le maître du pipi caca, de l'humour politiquement incorrect. On est venu aussi avec Scott Travis, qui est un jeune auteur américain qui vit à Londres, dont on vient de sortir sa toute nouvelle bande dessinée, qui est sa première publiée en France, qui s'appelle Hospital Drama Show. Donc, c'est dans un style très coloré, mais pareil, très trash, et il y a un vrai décalage entre le côté naïf du dessin et le contenu qui peut un petit peu vous choquer. Après, côté artbook, on est venu avec Andrew Blucha, qui a créé une sorte d'univers artistique qui s'appelle Métafable, qui est très inspiré de Roland Topor, avec des vieilles gravures. Enfin voilà, c'est assez, ça joue avec l'absurde et le côté vieille planche encyclopédique. Donc voilà, c'est un artiste qu'on aime beaucoup. Et Nils Berthaud, qui est un artiste issu de la scène underground française, qui fait de l'illustration, qui a beaucoup bossé avec Le Dernier Cri. Donc voilà, d'ailleurs c'est assez marrant parce que ça représente un peu tout le spectre des auteurs qu'on peut proposer.
Alors ce n'est pas votre premier salon au
problème, loin de là.
Très loin de là. Et au fur et à mesure de votre présence ici, comment est-ce que vous sentez la réaction du public quand il découvre ce stand?
Déjà c'est agréable, c'est qu'on est de moins en moins une surprise puisque petit à petit on s'installe dans le paysage. Après là où c'est toujours agréable, c'est que clairement il y a des réactions. Il y a des réactions en fait, du fait de la nature de notre catalogue. Alors les gens, comment dire? Désolé, je bafouille. Disons qu'on a un catalogue qui est assez clivant. Donc on peut avoir des réactions où les gens se pincent un peu le nez. Et d'autres réactions, à l'opposé, totalement enthousiastes, où les gens s'émerveillent de voir un catalogue qui leur met un petit peu des petites gifles. Donc voilà, c'est ce que j'aime, c'est que les réactions sont globalement à chaque fois assez fortes, dans un sens comme dans l'autre. Mais bon, c'est ce que j'aime. On n'est pas dans le consensuel.
C'est ça. Et justement, si tu avais à conseiller à nos amis auditeurs qui ne connaissent pas encore ta maison d'édition et ton autre maison aussi, quels seraient les titres qui pour toi leur permettraient de mieux découvrir cet univers-là?
En fait, tout dépend de la personne. Si vous êtes un adepte du trash et que vous n'avez pas peur d'être choqué, je vous proposerais de commencer avec bien sûr Shintaro Kago, Josh Simons, qui est un peu un maître de l'horreur à l'américaine, et Johnny Ryan. Néanmoins, si vous voulez démarrer en douceur, on a des auteurs quand même un petit peu plus accessibles, comme Tony Millionaire, qui est un auteur multiprimé américain et qui a une œuvre beaucoup plus douce, même s'il y a une certaine noirceur, et qui vous permettra justement de ne pas être... trop choqué, si je puis dire. Voilà. Et voilà, les auteurs là que je viens de citer sont vraiment les pierres angulaires du catalogue. C'est des auteurs avec qui on va continuer à travailler. Et je pense que si vous voulez vraiment appréhender la globalité de notre catalogue, c'est ceux-là qu'il faut lire.
Alors maintenant, on va parler un peu plus de vous.
Oui.
Parce qu'on a parlé de votre mission en tant qu'éditeur, on a parlé de votre maison d'édition. Votre rencontre avec la bande dessinée s'est passée comment? Est-ce que c'était déjà du transgressif ou c'est venu...
Non, pas du tout. Pas du tout, pas du tout. En fait, j'ai juste eu la chance de rencontrer les bonnes personnes dans ma vie. Moi, je suis issu d'une famille assez classique. Comme beaucoup d'enfants, j'ai été biberonné au journal de Spirou, avec les Gaston, les Tuniques Bleues, qui sont des œuvres qui ont marqué ma vie, qui sont des œuvres géniales. J'ai eu une grosse pause dans la bande dessinée, arrivé au lycée, ça m'intéressait plus. Il y a un truc qui est rentré dans ma vie qui s'appelait Les Filles, c'était beaucoup plus, beaucoup plus intéressant. Et j'étais plus centré sur la littérature, voilà, qui est aussi une autre de mes grandes passions. Et j'ai commencé à travailler en librairie en tant qu'apprenti. Et là, j'ai rencontré quelqu'un qui m'a formé et qui m'a ouvert à la bande dessinée pour adultes. Alors, quand je dis pour adultes, ce n'est pas la bande dessinée porno. Hein. On est vraiment sur la bande dessinée qui s'adresse pas que à des enfants. Voilà, elle m'a montré à quel point le champ du possible dans ce médium était grand. J'ai découvert un monde... absolument fou, où tout était possible. Et après, c'est au gré des rencontres. J'ai eu la chance de toujours évoluer dans un milieu proche de la musique, dans le rock. Par capillarité, il y a quand même énormément de liens où on m'a mis des BD entre les mains. Et puis petit à petit, je me suis fait mes goûts. Mais c'est vrai que plus ça avançait, plus j'allais vers des choses un petit peu sombres, un petit peu violentes. Mais je ne sais plus où je voulais en venir.
Dans votre réponse, vous parlez également de littérature. Et est-ce qu'à l'avenir, dans une évolution de votre maison d'édition, il y aura une place pour la littérature?
Non, pas du tout. Pas du tout. Pas du tout. Je pars du fait qu'il faut faire les choses à fond et qu'on doit faire des choix et que j'aurai jamais le temps de me concentrer sur autre chose que de la bande dessinée. Après, je pense ne plus avoir en plus le niveau. Voilà, la BD me prend tout mon temps, j'ai quand même très fortement réduit mes lectures. Je pense que je ne serais pas un très bon éditeur de littérature, pour être honnête. Donc voilà. Et puis, pour être honnête, je préfère regarder ça vraiment en tant que loisir. Voilà, je suis tout le temps dans la BD, des fois ça perd un peu en fraîcheur, puisqu'on ne fait que ça. Ma bouffée d'air frais doit rester quelque chose de non professionnel.
Alors le milieu de l'édition devient de plus en plus concurrentiel, de plus en plus compliqué actuellement. Quel conseil vous donneriez à un jeune qui voudrait tenter l'aventure ?
De ne pas la tenter.
Tu n'y vas pas, interdit.
Non, en fait, il faut être pragmatique. La grande difficulté, je pense, quand on est éditeur, c'est qu'on est trop enthousiaste sur les livres qu'on édite. On les trouve géniaux, à juste titre, puisqu'on va les défendre. Néanmoins, il faut partir du fait que les gens dans le monde du livre ne vous doivent rien, qu'ils n'ont aucune obligation de lire votre livre, de le mettre en avant, et que c'est sûrement ce qui va se passer au début. Donc voilà, je leur conseillerais juste de prendre le temps, de bien mesurer déjà ce que ça représente financièrement, de parler avant, beaucoup parler avec d'autres éditeurs qui forcément ont répété les mêmes erreurs, parce qu'on a tous fait un peu les mêmes, de beaucoup parler, et puis bon, bah forcément de se lancer, parce qu'à un moment ça reste une aventure, c'est ultra beau, hein, c'est quelque chose qui prend en trip, mais voilà. Ce que je vraiment conseillerais, c'est de beaucoup parler, d'aller voir les autres professionnels et de leur dire, bon bah voilà, comment ça s'est passé pour toi, qu'est-ce que tu me conseillerais de faire et surtout de ne pas faire. Voilà, en fait on a la chance d'être dans un milieu qui est quand même très très humain, où on peut être en contact extrêmement rapidement avec les gens qui le composent. Et bon voilà, en 2 mails, 3 messages Instagram et 2 coups de fil, vous pouvez déjà avoir quelques conseils qui sont vraiment vraiment précieux. Il ne faut pas avancer seul.
Moi, Julien, merci beaucoup.
Mais avec plaisir.
Et à bientôt.
Mais à bientôt.
Et oui, encore un énorme merci à vous, Julien, d'avoir consacré de votre temps lors du salon, parce que c'est pas évident. En plus, on est arrivé le samedi, mais on avait convenu d'un entretien. Il a tenu parole, même si le monde commençait à affluer. Donc autour d'un café en plus, ce qui est vachement sympathique pour les petits journalistes que nous sommes. Alors en préambule de ce podcast, je vous disais que j'allais vous parler par la suite de titres édités par cette maison d'édition. Je vais commencer par le dernier titre d'un auteur américain qui s'appelle Josh Simons, Groovy Death Trip. Que dire sur cet album qui est hyper difficile à chroniquer parce qu'il est vraiment dans la veine, dans l'ADN de cette maison d'édition, c'est trash, c'est immoral, c'est violent, glinçant, sexuel, c'est tout le concentré de la transgression fait bande dessinée, avec un style graphique qui rappelle vraiment les pulp BD américaines. Voilà, c'est ultra violent, parfois c'est du non-sens, il y a de l'absurde, ça brasse tous les thèmes de la société puritaine nord-américaine qu'il va prendre un malin plaisir à défoncer, griffer, biffer, enfin tout ce que vous voulez. Rien que la couverture, déjà, c'est un bel hommage à tout ce qu'on peut vomir de l'hypocrisie des États-Unis. On a un couple qui s'est lacéré le visage à coups de couteau, assis peinard dans un canapé avec une déco un peu très 70s. Ça envoie le ton, hein, dès la couverture. Alors bien sûr, c'est pas destiné aux enfants ni aux adolescents, c'est vraiment de la BD adulte, bien gore, bien dark, et c'est vraiment hyper bien foutu. Alors il y a plusieurs histoires dedans, hein. On est sur un album qui compte une bonne trentaine de petits récits en presque 300 pages. Il y a vraiment des récits qui sont parfois ni queue ni tête, d'autres qui sont vraiment de la parodie bien dégueu. C'est le cas de l'histoire intitulée Au pays de la magie, où on voit deux petites fées qui... Alors au début c'est tout mignon, et un sorcier qu'ils arrivent à buter, mais après ça devient super malsain et glauque, vu que l'un des personnages principaux, ça lui déclenche une forte envie de baiser, mais c'est vraiment immonde. Et c'est vraiment le truc qu'on... Un peu comme les films bien dégueux qu'on pouvait voir en VHS dans les vidéoclubs, qu'on mettait dans la platine quand les parents étaient pas là, et puis qu'on aimait regarder, mais avec les mains, avec les doigts écartés devant les yeux. C'est exactement cette sensation que m'a fait cet album. Donc c'est un artiste, Josh Simons, qui est vraiment vraiment atypique. Voilà, il fait partie vraiment de l'underground américain. On a une forte influence punk de cirque également, parce qu'il a été clown. Il a été clown dans des spectacles de cirque, notamment dans un groupe qui s'est installé dans la Nouvelle-Orléans, qui a tourné dans pas mal de villes américaines. Une fois que le groupe n'existe plus, c'est là qu'il va commencer à se mettre un petit peu à la BD. Il y a un comics qui s'appelle Circus New Orleans, qui est encore inédit, qui raconte sa vie de cirque punk. C'est assez, assez graphiquement, voilà, il y a déjà toute sa patte qui est dedans, c'est fantastique. Et on a de la chance, parce que les éditions Hubert l'ont remarqué assez vite, et en 2019, elles nous ont gratifié de plusieurs titres. Mark of the Bat, Black River, et également Le Manoir, des titres qu'il faut découvrir. Si vous cherchez vraiment quelque chose de malsain, dégueu, addictif, transgressif, c'est le mot du podcast, hein, mais c'est vraiment le mot qui convient pour qualifier ça, bah foncez sur le travail de Josh Simons, vous ne serez vraiment pas déçus du tout. Oh, ça faisait bien un petit moment que j'avais pas utilisé cet indice musical pour parler de BD japonaise. Et oui, parce que c'est grâce à un artiste japonais dont j'admire le travail que j'ai découvert les éditions Hubert. Il s'agit de Shintaro Kago, un maître de l'Eroguro SF qu'il faut vraiment que le public francophone découvre, surtout si vous aimez le manga du genre Eroguro, bien sûr. Alors Eroguro, c'est une contraction du terme érotique et gore, donc là encore c'est un style qui est celui recherché par cette maison d'édition, à savoir un assemblage grotesque, violent, teinté de sexe. Si vous connaissez Seishuro Maruo par exemple, qui est édité chez Le Lézard Noir en grande partie, et ben c'est ce style là, d'accord, c'est un style qui est graphiquement hyper recherché mais qui va mettre en scène des histoires que la morale et les bien-pensants, chers à Georges Brassens, réprouveraient, bien sûr, avant de nous jeter et des crucifix à la tronche. Alors Shintaro Kago est un artiste passionnant, né en 1969, il réalise de nombreux visuels, à la fois pour des illustrations, pour des affiches, mais aussi des albums. Par exemple, en 2014, il a réalisé les visuels du cinquième album du musicien californien Flying Lotus. Le titre, c'était, il me semble, Your Deed. Un album qui offre toute une réflexion sur la thématique, forcément, vu le nom de la mort. Et Kago s'est vraiment fait plaisir ici. La presse japonaise avait volontiers qualifié son style de paranoïa chic. Bon, pourquoi pas, des petits mots clinquants, ça fait un petit peu télérabesque. Pourquoi pas. Mais en tout cas, son travail est souvent publié, pré-publié au Japon dans des magazines pour adultes. Vu la teneur, ça peut se comprendre. Mais ses mangas, surtout, présentent beaucoup de sous-entendus fortement satiriques. Il est vraiment dans une veine de critique sociale, et c'est le cas dans son dernier titre édité chez Hubert. Il s'agit de Demencia 21. C'est en deux volumes, deux bons gros volumes. Et c'est mon gros coup de cœur de l'année dernière, que j'avais présenté dans Mangaka Story, d'ailleurs, autre podcast. Non, je vous rassure, je vais pas remettre Jamil et son auto-promo, on l'a déjà fait. Mais c'était vraiment quelque chose qui m'avait marqué, parce que autant le travail Eroguro de Kago, qu'on peut trouver chez d'autres éditeurs, me passionnait. Et Hubert propose aussi les artbooks de Kago, donc on avait des visuels qui étaient vraiment démentiels. Toujours chez nos amis de Hubert, on a également la saga La Princesse du Château sans fin, qui est vraiment un chef-d'œuvre graphique, artistique, architectural, avec une dimension, un format hors norme pour un manga, un condensé de tout ce qu'il est capable de faire. Et dans Demencia, et ben il va prendre le contre-pied de cela, c'est-à-dire qu'il offre un titre qui est lisible par des plus jeunes. Alors par des plus jeunes, j'entends pas non plus des enfants, faut quand même pas non plus déconner, mais lisible pour un public beaucoup plus large que ce qu'il a l'habitude d'avoir à faire. Alors nous suivons les aventures d'une jeune aide à domicile qui s'appelle Yukie. Elle est très dynamique, elle est pétillante, pleine de vie, c'est l'employé modèle de l'entreprise GreenNet, et sa passion, ce sont les personnes âgées. Elle fait tout pour leur faire plaisir et leur venir en aide, et c'est du coup pour cela qu'elle est considérée comme la meilleure employée. Mais un jour, rongée par l'aigreur, une collègue jalouse va fomenter un véritable complot pour la disgracier aux yeux de son patron. C'est alors les débuts des emmerdes pour Yukie, et franchement, c'est jubilatoire. C'est jubilatoire parce que, je vous disais tout à l'heure, il fait des sous-entendus, mais là, il prend un malin plaisir à mettre le doigt où ça fait mal dans la société nippone, à savoir le problème de l'ultra-vieillissement de la population. Et il en joue, il déconne avec. Alors, bien sûr, vous me direz, ce n'est pas le premier à le faire. Certes, il y avait le génial Katsuhiro Otomo avec son Runjin, adapté au grand écran sous le titre de Runjin Z, un film d'animation merveilleux, le manga l'est tout autant. Et ici, Kago, forcément, graphiquement, les critiques, notamment au niveau du quatrième de couverture du tome 2, on a vraiment affichant des influences allant de Salvador Dali à Katsuhiro Otomo. Oui, c'est sûr que là, ils ont vu juste, on est à la croisée de ces deux artistes. Il y a un jeu avec les perspectives, avec la mise en page, avec les décors. Ça devient parfois dégueu, c'est absurde, le complot des vieux c'est carrément démentiel, il y a des trouvailles, il y a des pépites. Le coup avec le Père Noël c'était très très drôle, comment attirer les vieux, se mettre des couches, enfin, c'est ça, il va chercher très très loin, mais vraiment très loin dans le soin à la personne, dans les tracas qu'ont les personnes âgées pour mieux en rire, mais jamais gratuitement. Ce n'est pas une attaque gratuite, c'est vraiment pour montrer qu'il y a un problème avec le vieillissement de la population âgée. Qu'est-ce qu'on fait de nos seniors dans la société japonaise, par extension dans le monde occidental? Il propose une réponse qu'on... Voilà, il y a une fin d'Evansia 21, il y a quelque chose. Moi ça m'a beaucoup fait marrer parce que je me suis, quand on prend le tome 1, et comment est-ce qu'on peut terminer une série comme ça? C'est parce que c'était vraiment présenté comme une série. Et ouais, parce que ça part quand même... C'est pas que ça part dans tous les sens, mais que l'humour de Kago est tellement particulier qu'on se dit « Ouais, quand même, est-ce qu'il va y avoir un fil rouge ou une logique ?» Et il arrive, en glissant dans les chapitres de manière non chronologique, à proposer une trame. Il va jouer avec des boucles temporelles. C'est vraiment incroyable. Et surtout, c'est l'aspect visuel, moi, qui me m'épate chez cet auteur japonais. Il a un trait unique, on le reconnaît tout de suite. On le voit également sur les réseaux sociaux, il est très actif, il publie énormément d'illustrations qui sont reprises également dans les compilations proposées par la maison d'édition à laquelle je consacre ce modeste podcast. Donc on est vraiment sur un travail d'orfèvre, vraiment graphiquement, et avec un humour très particulier mais qui fait mouche à chaque fois. Et puis voilà, si vous aimez un peu l'humour pipi caca, si vous aimez l'humour bien dégueu, bien trashouillé, bah Kago. Kago et Demencia 21 pour commencer. Et après, si vous êtes joueur ou si vous êtes amateur des Roguro, bah foncez sur les autres titres qui... Moi, je vous conseillerais vraiment La Princesse du Château sans fin. Vous pouvez également prendre une espèce de suite qui s'appelle Les Douze Sœurs du Château sans fin, qui est excellent aussi. C'est un artiste complet, c'est un artiste génialement dément et qui a toute sa place, du coup, dans le catalogue des éditions Hubert. Si vous voulez davantage d'informations sur le catalogue, vous pouvez toujours aller sur leur site web www.editionhubert.com et vous aurez l'intégralité de leur catalogue avec tout ce qu'ils peuvent proposer en dehors des deux auteurs que je vous ai cités. Mais il me faudrait des heures et des heures d'enregistrement pour vous dire tout le bien que je pense de la plupart des titres que j'ai pu lire chez eux. On a des livres, on a des BD, des artbooks, il y a même des puzzles Shintaro Kago. Hein, voilà, s'il y a des gros gros fans. Voilà, si vous voulez me faire un cadeau, vous pouvez toujours me l'offrir. Ce sera avec plaisir que je le ferai avant que ma femme me traite de con. Ou s'inquiète. S'inquiète de voir ça. Mais c'est vraiment une maison d'édition que j'ai grand plaisir à retrouver à chaque fois au Festival d'Angoulême, au niveau du pavillon de l'espace New York des indépendants. C'est toujours merveilleux de voir que ces structures existent et puissent proposer cela au public. Que ça choque pas, mais en tout cas que ça interpelle, qu'on en discute et que ça plaise aussi, parce que franchement les Roguro, bah c'est vachement plaisant. Chers amis, il est temps de se quitter. Je vous remercie de m'avoir écouté jusqu'au bout pour ce nouveau podcast consacré à la bande dessinée et à une maison d'édition chère à mon cœur. On se retrouve très très vite et en attendant, n'oubliez pas de lire et de vous faire plaisir avec de très très belles lectures. À bientôt.